Sud Radio 10h midi, Valérie Expert, Média.
Avec vous sur Sud Radio, bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles Gansman.
Bonjour Valérie, je suis à deux doigts de vous tirer la langue.
Pourquoi ? Ah, les Rolling Stones.
Les Rolling Stones, oh là là. Ça, vous avez vu le lien.
Philippe Manœuvre sera avec nous dans un instant, parrain de l'exposition de Rolling Stones Unzipped, énorme, gigantesque, méga expo au Vélodrome de Marseille. Ça va commencer le 10 juin, il va nous raconter un petit peu ce qu'on va y voir. C'est un véritable événement parce que ce sera à Paris, à Marseille justement et pas à Paris. À Marseille et nulle part ailleurs. À 10h30, vraiment restez avec nous. On va vous parler de cette enquête avec la journaliste Anne Jouan qui a révélé le scandale du charnier de Paris Descartes, des corps qui étaient donnés à la science. Ça part toujours d'une bonne intention pour que les étudiants en médecine puissent s'entraîner. Ces corps ont été pendant des années, près de 30 ans, maintenus dans des conditions ignobles, abjectes. Elle sera avec nous pour nous raconter cette enquête. On commence avec la question du jour.
Finir ce teasing, tout à l'heure, on aura Mick Jagger qui va dire des mots en français.
Oh,
alors, il faut rester vraiment avec nous.
Vous l'avez interviewé, si non, vous les aidiez à vous.
Non, je l'ai récupéré, le son. Pour la question du jour, alors, elle n'a aucun lien avec notre invité culture. Notre question, vous avez vu que...
Que Stéphane Séjourné, hier...
a demandé que le temps des paroles des éditorialistes durant les régionales soit décompté. On voulait avoir votre regard sur cette question. Est-ce qu'un éditorialiste, son temps compte pour un parti politique ? Et évidemment, c'est Zemmour qui visait là-dessus. Ouais. C'est est-ce que le temps de Éric Zemmour sur CNews doit être décompté pour, évidemment, le Rassemblement National ? La question est posée sur notre compte Twitter de Sud Radio. Vous dites oui à 18%, non à
82%. Et on va y revenir, nous, à
11h. Ouais. Voilà.
Tout puis, à l'heure,
Elisabeth
Lévy,
on a fait son papier dans la matinale.
Alors, on passe au zapping ?
Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping.
C'est l'annonce du président et du ministre de la Santé, Olivier Véran, qui a fait l'actu dans les médias, la vaccination pour les 12-17 ans. Mais Valérie, aux USA, ça fait plus de 3 semaines que la vaccination a démarré, comme le relatait Jean-Bernard Cadier, le correspondant de BFM.
Aujourd'hui, on a déjà un quart des ados, un quart des 12-17 ans qui ont reçu au moins la première dose. Ils reçoivent exactement la même dose que les adultes. Moderna dit que son vaccin, pour lequel on attend encore le feu vert, son vaccin Moderna est efficace à 100%. Pour se faire vacciner, les enfants doivent avoir une autorisation de leurs parents et ils peuvent aller le faire comme les adultes à la pharmacie, chez le médecin ou au supermarché.
Eh oui, supermarché.
Au supermarché,
on peut aller, les ados peuvent aller se faire vacciner.
Et puis il y a des États qui donnent des cadeaux, on en avait parlé,
ouais,
qui offrent. Il y a une loterie, il y a une fille qui a gagné
exactement
1 million de dollars.
Il y a Bastien qui est le réalisateur qui me dit mais c'est la caissière qui fait le vaccin en supermarché.
Ouais.
Le tour de nos campagnes par Emmanuel Macron fait débat et hier sur Canal+, dans l'info du vrai, le communicant Philippe Moreau-Chevrelet a analysé l'image. Écoutez.
Alors c'est une image très mitterrandienne qu'on a vue, hein, avec les toits des maisons mais sans croix, donc sans église, avec le fond vert. On voit qu'il est en campagne. C'est un petit peu l'actualité heureuse d'Emmanuel Macron. C'est l'homme qui va bien dans un pays qui va mal et il espère fédérer là-dessus, sur cette image 100% positive. Et lui, il va dans un village qui a voté pour lui où il fait beau, il y a du soleil, il a été vacciné, il a plus vraiment besoin de son masque. En face, c'est la France, c'est l'image d'Épinal de la France qui va bien.
L'homme qui va bien dans un pays qui va mal, c'est pas mal comme formule. Ouais. Pascal Praud, lui, n'aura pas eu... le débat qui fait rage actuellement sur la publication de Mein Kampf, j'imagine que vous en revenez avec vos débatteurs.
Non, on en avait parlé déjà.
Juriste et écrivain, hier, Rachel Kahn a parlé avec émotion de cette réédition sur LCI.
Alors, en fait, aujourd'hui, c'est particulier parce que c'est le 2 juin. Je sais pas si j'ai réussi à... Et c'est l'anniversaire de mon grand-père, déporté, pardon, je vous en prie. D'abord à Pithiviers et ensuite à Auschwitz, il est revenu. Et c'est vrai que Mein Kampf, en fait, c'est aussi savoir ce qui s'est passé, savoir d'où c'est parti. Pour moi, en tant que petite fille de déportée, j'ai une maman qui a été cachée pendant la guerre. Et c'est vrai qu'il faut transmettre, il faut dire qu'il faut pas oublier et qu'il faut le répéter et qu'il faut le traduire. C'est fondamental. Voilà, pardon, excusez-moi.
Et puis, il n'est pas simple de suivre Roland Garros à la télévision. J'en ris d'avance. Écoutez, Julien Courbet, hier, s'est amusé sur son Instagram et c'est tellement juste. Écoutez-le.
Toujours ici sur France Télévisions pour ce match de Djokovic que vous allez pouvoir continuer à voir, non pas sur France 2, car je vais vous demander maintenant de zapper puisqu'il est 19h et c'est l'heure de N'oubliez pas les paroles. Vous allez pouvoir voir la suite de ce match sur France 3 pendant une vingtaine de minutes, ce qui vous permettra de voir le début du deuxième set, car ensuite ce seront les actualités régionales. Il vous faudra aller voir la fin de ce deuxième set sur France 4, en espérant qu'il n'y en ait pas plus de 3, car après, vous pourrez revenir un petit peu sur France 2, mais c'est le film qui démarrera. La fin du match, vous l'aurez si vous prenez un abonnement sur Amazon Prime. Je crois que les choses sont simples et vive le tennis.
Il faut mieux être accroché à sa télécommande si vous voulez suivre Roland Garros.
C'est très compliqué. Drôle. Ensuite, on va rocker avec notre invité.
Sud Radio 10h midi, Média, l'invité du jour.
Non, l'invité du jour, ce ne sont pas les Rolling Stones, c'est notre Mick Jagger à nous, Philippe Manœuvre, qui est avec nous ce matin. Bonjour Philippe Manœuvre.
Bonjour.
Vous êtes le parrain de l'exposition The Rolling Stones Unzipped. C'est une exposition monumentale qui sera ouverte le 10 juin prochain jusqu'au 5 septembre à l'Orange Vélodrome de Marseille. Alors racontez-nous ce qu'on va y voir.
Alors on va voir 400 objets personnels choisis par les Rolling Stones en personne. C'est un peu l'ouverture du coffre au trésor. Il y aura les costumes de scène des années 60-70, il y aura les guitares, il y aura les posters, il y aura plein de choses. Il y aura les reconstitutions des endroits dans lesquels ils ont travaillé, où ils ont vécu. C'est une exposition immersive. Aujourd'hui, on fait des expositions où la vidéo est énormément utilisée. Et comme c'est les Rolling Stones, ils mettent un soin tout particulier sur le parcours. Enfin, je peux vous dire que c'est les éclairagistes de la tournée des Rolling Stones, c'est les gens qui font les lumières des Stones sur scène, qui vont venir pour faire les éclairages de l'exposition.
Et alors vous, quel est votre rôle dans cette exposition ?
Eh ben, j'aide un petit peu, je fais la promotion, j'essaye d'expliquer à tout le monde. D'abord, la première chose que j'essaye d'expliquer, c'est que cette exposition, elle va être à Marseille, et puis c'est tout. Elle va pas aller à Lille, à Lyon ou à Paris. Toutes les villes de France ont été prévenues, il y a eu des enchères, c'est Marseille qui l'a remporté. L'exposition va être à Marseille 3 mois, hein, du 10 juin au 4 septembre. Ouais. Et après, elle s'en va à Toronto, on ne la reverra plus en France. Voilà, ça c'est une des choses importantes qu'il faut dire. Et puis, l'autre chose, c'est d'expliquer un petit peu cette fantastique carrière rollingstonienne qui dure depuis 1962. Hein, l'année prochaine, en 2022, on fêtera les 60 ans d'existence des Rolling Stones.
Est-ce qu'on peut imaginer un concert ? Est-ce qu'il y aura un concert à Marseille ? Est-ce qu'on va les voir sur scène, les Rolling Stones ?
Marseille, c'est la dernière ville où les Stones se sont produits. Hein. C'était en 2018. La dernière fois où ils ont joué en France, c'était à Marseille. Ensuite, on se dit tous que, pour l'instant, les Rolling Stones, ils sont comme tous les artistes du monde, ils sont un peu arrêtés, bloqués chez eux. Keith Richards est aux États-Unis, Ron Wood et Charlie Watts sont en Angleterre, Mick Jagger se balade entre la France et le Luxembourg. Donc, tout n'est pas réuni pour faire un concert immédiatement, mais on a bon espoir qu'en 2022, ils vont faire quelques dates dans quelques villes qui leur tiennent à cœur, et pourquoi pas Marseille, oui, on l'espère.
Mais est-ce qu'ils en ont encore la force, la qualité vocale ? Est-ce que vous n'avez pas envie des fois qu'on reste sur l'image des rockers plutôt que des concerts un peu moyens parce qu'ils ont un peu vieilli ? Ou c'est pas le cas des Rolling Stones ?
Alors déjà, je vais vous dire tout de suite, moi personnellement, j'ai pas vu de concert moyen récent. Hein. Je pense que les Rolling Stones sont toujours au top niveau. Maintenant, ils sont une dizaine sur scène. Il y a des gens, il y a des choristes, il y a des claviers, tout, mais la qualité intrinsèque d'un concert des Rolling Stones, elle s'est pas écroulée au cours des 20 dernières années. Au contraire, ils continuent à être le meilleur groupe de rock du monde pour beaucoup.
Hein. Ouais, phénoménal. Hein. Moi, j'ai eu la chance de les voir. C'est vrai que Mick Jagger, entre autres, est impressionnant.
Il a 74 ans, il est débordante.
Incroyable.
Il continue à bouger comme un tigre. Il arpente. Il a une scène de 60 mètres de long. Il n'arrête pas, quoi. Et les guitaristes sont à la manœuvre, si je peux me permettre. Charlie Watts qui fête ses 80 ans aujourd'hui. Happy birthday Charlie. Ben, grâce aux batteries modernes, il peut continuer à jouer avec les Rolling Stones et il ne faiblisse pas. Alors juste qu'il y a maintenant, entre chaque concert, il demande 2 jours de repos. C'est plus les années 70 où il faisait 4 concerts d'affilée en 4 jours. Aujourd'hui, chaque concert des Rolling Stones, il y a 2 jours de repos après. Bon, voilà, c'est ça un peu le prix à payer.
Ah, c'est une exposition que les Rolling Stones ont suivie, Valérie. Et moi, j'ai Mick Jagger qui parle de l'exposition. C'est très court, hein, mais écoutez.
Salut, mes amis. Je vous donne rendez-vous à Marseille le 10 juin pour notre exposition The Rolling Stones Unzipped à l'Orange Vélodrome. Vous allez adorer.
Il parle bien français, hein, dis donc, Mick Jagger.
Mais magnifiquement, il faut savoir que Mick Jagger, il habite en France, il a un château, ouais, disons le mot, hein, à côté de Chambord, pas très loin, et il vit là, et puis il venait en France quand il était encore écolier, son papa, il venait passer les vacances en France avec ses parents, et il parle très bien français. Moi, je l'ai interviewé dans les années 80 pour le journal d'Antenne 2, vous voyez si ça remonte. Ouais. Je lui avais dit, est-ce que vous savez qui est le président en France, Mick? C'était évidemment François Mitterrand. Et Jagger étant Jagger, il avait dit, c'est le général de Gaulle? Non, enfin, vous voyez, donc, il est là, il a toujours le même humour incroyable, il est formidable, c'est le chef du rock, hein, Mick, ouais. Voilà.
Vous l'avez recroisé depuis ou pas?
Écoutez, j'ai recroisé depuis 1987 un certain nombre de fois, ouais, oui, fait pas mal d'interviews, je vais le voir en concert, j'espère avoir un petit contact bientôt avec lui, parce qu'il commence la promotion, il s'intéresse beaucoup à la destinée de cette exposition, et il en fait la promotion, il donne un certain nombre d'interviews qui vont sortir, enfin voilà, donc on se sent soutenu par les Rolling Stones, parce que c'est vraiment eux qui ont conçu cette exposition. Hein. C'est pas une exposition faite par des fans.
Non, il y a des objets, on a pu voir quelques images. La cuisine, je pense que c'est la cuisine.
La cuisine, c'est le premier appartement où ils habitaient ensemble avec Brian Jones, Mick Jagger, Keith Richards. C'est là où ils ont appris à jouer ensemble dans le quartier de Chelsea à Londres. C'était un taudis à Edith Grove. C'est les 2 premières années des Rolling Stones. Ça, ça a été reconstitué. Il y a les disques qu'ils écoutaient, il y a les journaux qu'ils lisaient, il y a les cendriers débordant de mégots. On a vraiment l'impression d'être dans le berceau des Rolling Stones. Hein. Voilà. Et puis, il y a des salles avec des variations sur le logo des Rolling Stones, la langue, et tout ça est... C'est très moderne. Par exemple, si vous avez une guitare de Keith Richards proposée, on peut la voir. Derrière, vous avez un écran géant où on voit Keith Richards en train de jouer cette guitare. Vous voyez. C'est les expositions modernes, complètement inclusives. Et à la fin de l'exposition, quand vous avez fini le parcours, vous arrivez littéralement sur scène avec les Rolling Stones. Vous êtes dans une espèce de boîte vidéo. Et là, il y a le concert de la Havane, et vous avez vraiment l'impression d'être derrière Charlie Watts, à pouvoir le toucher, vous voyez les Stones en interaction, vous voyez le public comme ils le voient eux, vous êtes un Rolling Stone pour 10 minutes à la fin de l'exposition. Ouais.
Si je dois écouter une chanson des Rolling Stones, absolument, c'est laquelle? Je peux en écouter qu'une. Hein.
Alors, en ce moment, moi je regarde souvent sur les nouveaux jukebox, vous savez que ce soit les Deezer, Spotify et compagnie, pour voir un peu, parce qu'on voit la chanson préférée. Ouais. On voit la chanson préférée des gens, et moi j'ai regardé, en ce moment, c'est Painted Black, la chanson des Rolling Stones, qui emporte vraiment tous les suffrages. Moi, mon fils a 9 ans, c'est sa chanson préférée, il la chante de A à Z, enfin voilà, je ne sais pas pourquoi, alors est-ce que c'est le rythme oriental, est-ce que c'est le message repeint tout en noir, enfin, il y a quelque chose qui se passe avec cette chanson, et c'est bizarre, parce que c'était juste un tube des Rolling Stones. Dans les années 60, tout le monde aurait dit c'est Satisfaction, dans les années 80, on aurait dit c'est Start Me Up, vous voyez, mais là, en ce moment, pour la postérité, c'est Painted Black qui reste.
Vous n'avez jamais été Beatles, ou parce qu'on est soit Beatles, soit Rolling Stones, hein?
Non, mais là, aujourd'hui, la question se pose plus, les années 60, on est tellement heureux d'avoir connu les Beatles. Moi, je suis tellement heureux d'avoir pédalé sur ma bicyclette pour aller acheter le dernier 45 tours des Beatles qui venait de sortir. J'ai vécu ça dans ma vie. J'étais tellement fou de joie, mais pour moi, c'est vrai, c'est des Rolling Stones dont j'aurais aimé faire partie, dont j'aurais aimé être l'ami. Donc, c'est eux qui me fascinaient totalement.
Ouais. Et vous ressentez toujours, vous ressentez quelque chose quand vous les interviewez, quand vous interviewez Mick Jagger? Est-ce qu'il y a toujours un petit battement, des petits papillons dans le ventre? C'est toujours impressionnant.
C'est toujours impressionnant, bien sûr. Puis Mick, c'est un grand raconteur. Ouais. Il a toujours des petites anecdotes. Il raconte des choses formidables. Et puis, il parle bien. Je trouve que c'est... Enfin, on est content que ce soit lui le chef du rock. Quand on voit toutes les choses horribles qui sont arrivées à des artistes divers et variés, Mick Jagger, il sort pour quelqu'un qui a été la locomotive du rock. Il a pas fait plein de choses qu'on peut reprocher à des cantats, des choses horribles comme ça. Lui, Mick Jagger, il sort de là avec une certaine classe britannique, ma foi.
Oui, complètement. Hein.
Et ça nous fait bien plaisir d'avoir choisi le bon groupe, quoi. Celui qui a tenu le choc.
Pourquoi Marseille, encore une fois, j'ai lu que, alors je ne sais pas si c'est vrai, qu'ils avaient choisi Marseille parce que c'est une ville rebelle et que ça avait assez mal commencé puisque Mick Jagger avait reçu une chaise lors d'un concert. Est-ce que c'est vrai ou pas ?
Ah mais c'est vrai, c'est le fameux concert de la Salle Vallier, le deuxième concert en 1966, et j'ai rencontré le monsieur qui avait lancé la chaise un jour où j'étais en dédicace à Marseille. Il s'est levé, il a dit « c'est moi qui ai lancé la chaise sur Mick Jagger ». Et il nous a tout expliqué. Les Stones se jouaient Satisfaction, on est en 1966, et la salle devient folle. C'est l'hystérie collective. Les gens se mettent à tout fracasser, à hurler, à s'évanouir, à sauter sur la scène. Et il dit, moi, j'ai pris ma chaise, et je l'ai lancée de joie en l'air, et elle est retombée sur Mick Jagger. Elle lui a fracassé l'arcade sourcilière. Il s'est mis à saigner. Ouais. On l'a emmené. C'est Jean Sarus des Charlots qui faisait la première partie avec Antoine, qui était le seul à parler un peu anglais, donc il a été chargé d'emmener Mick Jagger à l'hôpital en urgence. On lui a mis 3 points de suture et il a fini la tournée avec des grosses lunettes noires. Mais c'est vrai qu'il y a cet enthousiasme incroyable des Marseillais au départ. Ouais. C'est la seule date dans l'histoire des années 60 des Rolling Stones, ils ont donné des centaines de concerts, c'est la seule fois où un des Stones s'est blessé, c'est à Marseille. Ouais. Mais c'était un geste d'amour.
Oui, c'était pas de la violence.
Alors, Valérie Philippe, je vais vous faire écouter le début de Sympathy for the Devil. Et on a fait avec le Réal, on a monté un petit peu, on a resserré parce qu'on est à la radio, mais on a pris l'intro parce que durant toute l'intro, c'est Mick Jagger qui fait un tas de cris. Et rien que ça, c'est très Rolling Stone. Écoutez. Quelle voix et ces petits cris et c'est assez incroyable quand même.
Alors cette chanson de 1968 est devenue un peu le pivot dans les concerts des Rolling Stones. C'est vraiment le très grand moment. C'est le moment où Mick Jagger se déguise en Lucifer. Il arrive avec des petites lunettes noires, des chapeaux de forme, des costumes invraisemblables qui seront tous exposés là, parce qu'on va voir leurs costumes de scène, mais aussi leurs costumes de ville, vous voyez. Donc, voilà. Et cette chanson, c'est vrai, Sympathy for the Devil, c'est devenu un peu le cheval de bataille en public. C'est à ce moment-là que Keith Richards prend le très long solo de plus d'une minute certains soirs, ou des fois 3-4 minutes avec Ron Wood, il se déchaîne et Mick se donne vraiment, ça lui donne toute l'importance qu'il peut avoir. Quoi. Là, c'est un rôle magique sur scène.
Ouais. L'exposition, elle a eu beaucoup de succès dans les pays où elle a déjà été exposée.
Oui, ça c'est. Alors en Angleterre, c'était formidable. C'était au moment du concert de Hyde Park en 2013. Moi, j'ai été la voir. C'était bourré, bourré, bourré. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, ça marche très, très bien. Il n'y a que en Hollande où ils avaient le Covid et ils pouvaient pas ouvrir l'exposition. Donc les Hollandais ont raté l'exposition. Elle a été ouverte 15 jours. Et puis après, il a fallu fermer les portes. Mais sinon, c'est un très gros succès mondial partout. Elle va tourner dans tous les pays de la planète. Hein.
Ouais. Est-ce que vous avez un objet rare des Rolling Stones, un t-shirt ou quelque chose que personne n'a que vous avez? Est-ce que vous avez 2-3 comme ça, objets des Rolling Stones qui pourraient nous rendre jaloux?
J'ai un gros carnet où je les ai fait tous dédicacer. C'est un carnet 400 pages, un carnet qui, The Rolling Stones, qui vendait à un moment dans le merchandising. Et sur 4 pages différentes. J'ai fait signer Mick, Keith, Charlie, Ronnie. Après, j'ai rencontré Bill Wyman pour autre chose. Je lui ai fait signer aussi. Ça, c'est le truc le plus précieux, quoi. Ce livre vierge avec juste les 5 signatures des 5 Stones au début. Et j'ai, mais ça, c'est totalement ridicule. Un jour où j'étais au bureau des Rolling Stones, ils amenaient les bouteilles d'Evian de Mick Jagger. Mick Jagger ne boit que de l'Evian. Et donc, ils amenaient toutes ces petites bouteilles d'Evian. Et j'en ai piqué une. C'est la bouteille de Mick. Et j'ai toujours dans ma bibliothèque.
Ah ouais, c'est du fétichisme quasiment.
C'est un peu du fétichisme vaudou. Mais tous les gens qui vont aller voir l'exposition me comprendront. Voilà, c'est les trésors des Rolling Stones, c'est les merveilles qui nous font rêver, c'est les guitares des Stones, les médiateurs des Stones, les habits des Stones. C'était un facteur de rêve pour nous. Oui, c'était un peu rebelle, mais l'époque, on était jeunes et on était rebelles, bien sûr.
Ouais, mais ils sont toujours rebelles et toujours jeunes comme vous, Philippe Manœuvre, voilà, perpétuel enfant du rock.
Voilà, c'est l'élixir de l'éternelle jeunesse. Hein. Bien sûr, les gens disent, mais qu'est-ce qui maintient les Rolling Stones en vie? Ben, c'est la notion que l'année prochaine, ils ont des concerts à faire, ils ont des millions de fans qui les attendent. Vous savez, si aujourd'hui on disait les Stones vont jouer, mais n'importe où au monde, ça serait plein, taille du stade, ça serait plein en quelques secondes. Parce que c'est vraiment, c'est l'ultime groupe de rock. Moi, je sais que s'il y a un moyen, j'ai un souhait, ça serait d'emmener mes deux enfants de 9 et 4 ans voir les Rolling Stones. Ça,
j'allais vous poser la question, vous avez transmis votre passion à vos enfants, en tout cas à votre fils, 9 ans, il est en âge de comprendre et d'apprécier. Il aime le rock.
Alors, il aime le rock, mais l'autre jour, il est venu me voir très troublé, il me dit « Papa, tu sais, je crois que je préfère les Beatles. »
Ah, ben voilà, on y revient toujours. Mais je crois que les Stones, c'est plus, c'est une question d'âge aussi, on apprécie.
Évidemment, parce que la musique des Stones, Valérie, vous l'avez deviné, elle est sexualisée, très très sexy. Alors que la musique des Beatles, Ulysse, mon fils, qu'il aime, c'est I Want to Hold Your Hand. Il a 9 ans et c'est ça, il a envie d'aller à l'école en tenant la main de sa copine, ça va pas plus loin. Ouais. Quand ça ira vers 14 ans, je pense qu'il va découvrir les Rolling Stones et que ça va correspondre à des pulsions physiques.
Un peu différentes. Donc l'exposition, vous m'avez donné vraiment envie de venir. Hein.
Ah oui,
Rolling Stones Unzipped à l'Orange Vélodrome de Marseille. Ça commence la semaine prochaine, le 10 juin, jusqu'au 5 septembre. Et on pourra vous voir aussi, vous toucher en vrai.
J'y suis toute la semaine prochaine. D'accord. J'ai prévu de passer plusieurs fois à Marseille cet été. Je vais aller en vacances en Corse, donc je vais partir de Marseille. Je vais revenir voir l'exposition. Je vais surveiller le destin de cette exposition jusqu'au bout.
Bah, très bien, merci Philippe Manœuvre. Allez, on se quitte avec Painted Black. Merci à vous.
Merci Valérie.
Merci.